Je lis quelques versets pour introduire notre étude. Ces versets situent l'œuvre des serviteurs de Dieu dans le plan général de notre Seigneur. Et parmi ces serviteurs se trouvent les grandes figures de la série que nous avons entamée, que nous continuons aujourd'hui. C'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 que je lis les versets 4 à 9 qui avertissent contre un attachement excessif telle ou telle personne, mais qui en même temps montre quel est l'honneur que le Seigneur fait à des êtres humains lorsqu'il les emploie, lorsqu'il leur accorde de travailler au sein de son propre travail. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 4, Paul s'écrit, quand l'un dit dans l'Église, « Moi j'appartiens à Paul », et un autre, « Moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Nous avons à peu près une étude par siècle dans le déroulement de notre survol, et c'est aujourd'hui le 18e siècle que nous considérons plus spécialement, et au 18e siècle, le grand événement pour l'histoire qui a préparé ce que nous sommes, c'est ce qu'on a appelé le réveil évangélique. Le mot évangélique, c'est le qualificatif qui est entré en usage pour ce réveil. C'est à partir de ce moment-là que le mot a pris la coloration, les connotations plus précises qu'il a encore aujourd'hui. Auparavant, le mot était déjà en usage et il l'a été au moment de la réforme en particulier. Pour tous ceux qui embrassaient la réforme, en France en particulier, on les appelait les évangéliques. Mais la nuance particulière qui est encore celle qui vaut pour nous, évangélique, c'est au XVIIIe siècle, par association à ce réveil, qu'elle a été attachée au terme. Les trois instruments les plus célèbres, et semble-t-il les plus efficaces de ce réveil, ont été les trois qui sont mentionnés sur la feuille, hein, John Wesley, George Whitefield, bien que ça s'écrive comme White, ça se prononce White, hein, Whitefield, et Jonathan Edwards. Comme nous allons voir, il y en a d'autres qu'on peut mentionner, et les trois sont en fait quatre, comme les mousquetaires, mais ça j'anticipe un tout petit peu. Ces trois, donc, on les appelle aussi revivalistes, comme en général les promoteurs, les prédicateurs de réveil. Et il faut que j'explique d'abord ces termes. Le mot « réveil » traduit en fait deux mots anglais distincts. Le phénomène a d'abord été un phénomène anglo-saxon, hein, on n'en peut pas douter. Et alors en français, on utilise le mot « réveil » pour traduire deux termes distincts en anglais. Le mot qui signifie couramment pour tous les jours, hein, le mot « réveil »,« awakening », « to awake », c'est « se réveiller ». Donc, on emploie le terme de awakening, et avec la qualification du grand awakening, de l'awakening évangélique. Mais on emploie aussi un autre terme, qui est le terme revival, duquel on tire le mot revivaliste. C'est un terme qui n'a pas tout à fait la même signification. Au départ, c'est la même racine que raviver. Revive, ou revival, c'est raviver. C'est apporter un regain de vie, c'est revitaliser la foi et la piété chrétienne. Donc ces deux termes sont en usage couramment dans la langue qui a été la première langue des réveils. Alors qu'appelle-t-on réveil avec ces deux termes en anglais? C'est un phénomène historique quand même assez particulier. Je crois qu'on peut dire qu'il est caractéristique du protestantisme entre le début du XVIIIe siècle et la première partie du XXe, qu'il est assez circonscrit dans l'histoire. Le mouvement qu'on peut appeler réveil a des caractéristiques assez spéciales qu'on ne retrouve pas dans les autres siècles. C'est quand même assez différent, même si on dit que la réforme au XVIe, c'était un réveil. Oui, d'accord, mais c'est pas avec ces caractères très spéciaux que l'on attribue à ces moments qui ont été très très visibles au XVIIIe, au XIXe et encore au XXe siècle, mais je ne pense plus que ce soit caractéristique de notre temps aujourd'hui. Alors, c'est premièrement une intensification vraiment aiguë, extrême, du souci spirituel, le souci du salut, le sentiment de la condamnation, de la perdition si on ne se tourne pas vers Dieu, le désir d'obtenir son pardon, atteignent là des intensités qui ne sont pas habituelles. Le désir de sanctification aussi. C'est dans ce sens qu'on peut parler d'une revitalisation de la pratique, au moins, de la vie chrétienne. Ce souci intense, il saisit une fraction importante de la population d'un territoire donné. C'est ça qui, en particulier, est très caractéristique et ne se retrouve pas dans d'autres siècles. Il se trouve que pendant un moment, pendant un certain nombre d'années, ce souci avait saisi un nombre important de gens au point que toute la société est secouée. Il y a des gens qui, tout à coup, dans la rue, tombent sous le sentiment de leur péché et qui ont besoin immédiatement de trouver quelqu'un à qui parler pour se réconcilier avec Dieu. C'est un phénomène qui est assez courant dans ces réveils. Ce sont des territoires, les territoires concernés, qui, en général, sont déjà fortement christianisés, où les gens ont reçu un enseignement biblique dès l'enfance, où c'est, si vous voulez, une part de la culture générale. Et dans de tels territoires, et cela reste assez circonscrit territorialement, le dernier, peut-être le plus typique en tout cas, ça a été le réveil du pays de Galles. Et c'est dans le pays de Galles que ça s'est manifesté au début du XXe siècle. Et pour la France, on a parlé du réveil de la Drôme. Ce serait aussi le dernier phénomène assez proche, relativement proche, mais qui n'a pas saisi toute la société, qui a saisi toute la société protestante de ce département où l'empreinte protestante était importante. Vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième trait caractéristique. Le troisième, alors, c'est que généralement, cette intensité du sentiment spirituel s'accompagne de manifestations extraordinaires. Et les gens sont saisis d'une manière qu'il est tout dans leur corps, alors ils poussent des cris, ils pleurent, parfois ils rient, ils entrent en transe. Ce sont des phénomènes qui se retrouvent à des degrés très divers. Hein. Selon les réveils qu'on considère, c'est beaucoup ou c'est peu. Mais c'est quand même un des traits qui est aussi assez caractéristique de ces réveils. Alors les diverses vagues de pentecôtisme au XXe siècle et encore au XXIe se considèrent comme le prolongement de ces réveils. C'est l'interprétation, en quelque sorte, que les charismatiques, comme les pentecôtistes auparavant, ont de leur mouvement. Et il est vrai que, historiquement, c'est dans le prolongement du réveil de Wesley, tout spécialement, que le pentecôtisme est né. Il y a toute une postérité de John Wesley qui a fait partie de ce qu'on appelle les mouvements de sainteté, et c'est à l'intérieur de ces mouvements que le pentecôtisme est né au début du XXe siècle. Donc il y a une filiation, c'est indéniable. Mais je crois que les traits que j'ai évoqués en ce qui concerne les réveils ne se retrouvent pas dans les vagues pentecôtistes. Il y a bien sûr des traits de similitude, mais comme à d'autres époques aussi, les traits plus spéciaux, entre autres la localisation, le caractère territorial très marqué, et aussi le lien avec une imprégnation biblique de la population, ces traits ne sont pas caractéristiques de l'expansion pentecôtiste au XXe siècle. Donc je pense que nous avons des phénomènes qu'on peut comparer, mais qui ne sont pas là les mêmes. Et nous nous concentrons donc sur ces réveils du XVIIIe au XXe siècle, et là tout spécialement aux trois plus grands noms, ceux de Wesley, Whitfield et Edwards. Alors, je vous l'ai remarqué, il s'agit de trois noms anglo-saxons. Ce réveil évangélique a été un réveil de la Grande-Bretagne, qui s'est situé en Grande-Bretagne, et dans les colonies, à l'époque c'était encore des colonies, les colonies anglaises du nord-est et de l'est des États-Unis, d'aujourd'hui, hein, les colonies qui sont devenues ultérieurement, avec la révolution américaine, les États-Unis. C'est là que cela s'est situé, et cela joue pour les trois dont nous parlons. Alors, Jonathan Edwards n'est pas venu en Grande-Bretagne, mais par ses écrits, il a joué aussi un rôle important pour l'extension du réveil en Grande-Bretagne. Donc, il a une influence en Grande-Bretagne. Et aussi bien Wesley, et surtout Whitfield qui a fait 7 voyages dans les colonies d'Amérique. Pour cela, c'est vraiment l'ensemble de la Grande-Bretagne, plus ces colonies américaines qui ont été le champ de développement de ce réveil. Alors, comme pour les autres études, je pense utile de rappeler quelques traits du contexte chaque fois. Donc, en Grande-Bretagne, quelle est la situation? Nous avons vu quelle était la situation à l'époque de Bunyan, quelques dizaines d'années plus tôt. En Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, les choses se sont quand même un peu calmées. Il y a toujours un privilège pour l'Église anglicane, et toujours cette ambiguïté de l'Église anglicane, avec d'une part le regard qui louche vers le catholicisme, et l'autre qui est plus proche des évangéliques, et précisément le réveil va donner au parti évangélique, ou à la partie évangélique de l'Église anglicane, une très grande force à ce moment-là. Mais l'Église anglicane ne persécute plus les dissidents, les presbytériens, les baptistes, etc. Ils peuvent survivre avec un peu moins d'avantages dans la vie sociale, mais quand même. Et par rapport à l'époque de Bunyan, il n'y a plus les emprisonnements qu'il y avait. En partie, d'ailleurs, cela est dû à l'affaiblissement de la conviction religieuse. Dans l'Église anglicane, précisément, le déisme, c'est-à-dire une version où Dieu se devient très pâle, c'est un Dieu qui n'intervient plus guère, un déisme rationaliste où la divinité de Jésus-Christ est niée, ce déisme a fait de très très grands progrès à ce moment-là. Voltaire, le français, a beaucoup aimé cette Angleterre-là, à l'époque. Il y a ces journées et vous avez un christianisme version anglaise, mais qui est quand même assez voltairien, déjà. Donc, vous avez cet affaiblissement de la foi, en particulier dans les élites intellectuelles, au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, tout Silicosse. Et puis c'est le temps de la première industrialisation. C'est la Grande-Bretagne qui a été la première nation à s'industrialiser. La révolution commence là, la révolution industrielle avec ses conséquences sociales. Et d'ailleurs, il est intéressant de savoir, je l'ai lu en me préparant, que ce sont les dissidents, justement les non-anglicans, qui ont été à la pointe de cette évolution, la première révolution capitaliste en quelque sorte. Les élites anglicanes étaient souvent des élites de noblesse rurale, c'était les seigneurs, etc. Et ce sont les presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes, etc., qui ont foncé dans la nouveauté industrielle, surtout qu'ils avaient misé sur l'éducation, en Écosse en particulier, et aussi des écoles plus libre en dehors des grandes universités. En Angleterre et en Irlande, les écoles ont été particulièrement soignées par les églises dissidentes, non anglicanes, puritaines, si vous voulez, dans leur origine, et ces écoles donc ont fourni des cadres pour la révolution industrielle. Alors cette révolution industrielle a eu des conséquences sociales énormes. Exode rural, des villes qui se sont énormément agrandies, mais sans des conditions d'accueil voulues, de telle sorte que la misère s'est effroyablement accrue avec cette première révolution industrielle. Les gens habitant des taudis, hein, les bidonvilles, c'est en quelque sorte, ça date de cette époque-là. Et alcoolisme, avec ses conditions de vie sociale détériorées, donc une dégradation aussi morale. J'ai lu que, alors que le gin, cette boisson fortement alcoolisée, avait été inventée juste quelques dizaines d'années auparavant, il s'en est vendu en 1742 31 millions de litres, ce qui veut dire une moyenne de 3 litres par individu. Alors bien sûr, c'est une simple moyenne, ça veut dire un nombre d'alcooliques énorme. Donc une dégradation socio-culturelle, pourrait-on dire, aussi très marquée avec cette industrialisation. En Amérique, très différent. En Amérique, c'est surtout la Nouvelle-Angleterre que nous considérons, donc la partie nord-est, la partie autour de Boston, au nord de New York. Cette partie-là, elle a été peuplée par les dissidents chassés d'Angleterre, chassés par la persécution. Et il s'est édifié là, c'était un compromis que la couronne anglaise a accepté, une série d'États où la théocratie calviniste était installée. Des États qui étaient officiellement réformés de discipline, de confession de foi, avec comme encadrement, comme élite sociale, qui vraiment avait le pouvoir, des dynasties pastorales. Des pasteurs calvinistes tenaient le pays, en quelque sorte, depuis le XVIIe siècle, avec intolérance aussi. Roger Williams, le baptiste, celui qui a fondé la première église baptiste américaine, il n'est pas resté baptiste très longtemps, mais il a continué ensuite à soutenir les baptistes, et il s'était mis à l'écart, en quelque sorte. Mais Roger Williams a été chassé du Massachusetts, justement parce qu'il embrassait les idées baptistes. Donc, avec une rigueur morale, c'était les puritains qui régnaient dans cette Nouvelle-Angleterre. Alors, c'était un peu moins, parce que là, il y avait plus d'anglicans, un peu plus au sud, l'État de Virginie, les États au bord de l'Atlantique toujours, mais un peu plus au sud. Mais la Nouvelle-Angleterre était la partie la plus dynamique, avec cette situation-là, très, très intéressante à observer. Et il y avait, dans cette situation, une question très, très délicate, et avec une tension énorme. Le rapport aux Indiens, d'une part, c'était des hommes qui voulaient servir le Seigneur, vraiment très sincères, très rigoureux dans leur morale, donc ils voulaient être bons pour le prochain, bienveillants pour ces Indiens, et il y avait un certain souci missionnaire parmi ces détenteurs du pouvoir social dans ces colonies de Nouvelle-Angleterre. Mais d'autre part, tout leur intérêt, c'était de chasser les Indiens et de récupérer leurs terres. Donc une situation extrêmement tendue. Et contre Roger Williams et contre d'autres, il y avait aussi qu'il pactisait avec les Indiens, qu'il soutenait la cause des Indiens, les droits des Indiens. C'était le cas pour le baptiste Roger Williams. Et donc, vous aviez cette tension, et ça se traduisait au plan théologique lui-même, car une idée clé de ces calvinistes puritains de Nouvelle-Angleterre, c'est qu'ils reproduisaient la conquête de Canaan. Selon l'Ancien Testament, le christianisme réformé a une tendance très générale à supprimer la différence ou à diminuer la différence entre Ancien et Nouveau Testament. Alors ils prenaient tous les textes de l'Ancien Testament sur la conquête de Canaan pour eux. Oui, le Seigneur leur donnait cette terre nouvelle pour édifier un nouveau monde selon sa volonté. Et donc les Indiens étaient assimilés aux Cananéens. Du coup, vous aviez une tension vraiment très sérieuse, qui était aggravée par un autre facteur, dont nous avons un peu perdu le sens aussi, mais qui nous implique, nous Français. Les Indiens, dans leur grande majorité, pas tous, il y a quelques tribus qui étaient plutôt côté anglais, mais les Indiens, dans leur grande majorité, étaient pro-français, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il y avait 20 fois moins de colons français que de colons anglais. Donc les Français n'avaient pas besoin de conquérir les terres indiennes, de chasser les Indiens. Et du coup, ils ont fait alliance avec la plupart des tribus indiennes. Et à l'époque, il faut nous rendre compte que les Français dominaient pour un arc immense du Québec jusqu'à la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, etc. Vous trouvez encore des noms français. Vous aviez donc, je ne sais pas, voilà, vous avez la côte américaine, hein, avec la Floride là. Vous avez la Nouvelle-Angleterre ici, avec les États Virginie, Caroline, ici. Mais là, vous avez le Québec. Et tout cet arc-là, jusqu'à la Louisiane, avec la vallée du Mississippi, c'était les Français, alliés des Indiens. Et il y a eu plusieurs guerres, nous allons en reparler, plusieurs guerres entre les Anglais des colonies, donc anglophones, dont nous parlons plus spécialement, et les Français, alliés aux Indiens du Québec, et dans ce qui est aujourd'hui l'Illinois, ensuite les États plus au sud, jusqu'à la Louisiane. Oui. Il y a encore des noms français, Marquette, par exemple Notre-Dame, vous avez l'université de Notre-Dame, c'est le nom de la ville, c'était fondé par les Français dans l'Indiana. C'est une des grandes universités aujourd'hui. Et la Nouvelle-Orléans. Donc vous aviez cette situation de ces États puritains, calvinistes, de langue anglaise, mais qui étaient entourés par cette énorme bande plutôt française, avec plusieurs guerres. Voilà la situation qui était celle des pays où le réveil a éclaté. Alors, je prends les trois noms dans l'ordre qui a été annoncé. C'est pas un ordre chronologique très rigoureux. En fait, le premier réveil, c'est plutôt en Nouvelle-Angleterre avec Edwards. Mais je pense que pour bien comprendre ce qui s'est passé, il vaut mieux que j'expose les choses dans l'ordre Wesley d'abord, puis Whitfield, puis Edwards. Donc nous commençons par John Wesley, né en 1703, et qui a vécu jusqu'à un âge avancé, puisqu'il a atteint 1791. John Wesley est le plus connu des trois. Il y a des églises qui portent encore le nom wesleyen. De toute façon, il est considéré comme le fondateur d'une des branches principales du protestantisme, le méthodisme. Donc c'est lui qui est le plus célèbre pour cette raison. Et il a œuvré, c'est dans ce sens que les trois mousquetaires étaient quatre, il a œuvré avec son frère Charles Wesley, né un peu plus tard que lui, donc il était un peu plus jeune, né en 1707. Et je pense que John n'aurait jamais eu l'impact qu'il a eu sans Charles. En fait, c'est vraiment les deux qui ont œuvré très puissamment. Charles était peut-être encore un peu plus doué comme orateur que John. John était, lui, de loin le plus doué pour l'organisation. Ça a été sa grande force. C'est comme ça qu'il a laissé un mouvement si puissant à l'issue du réveil. Mais Charles était très important, et en particulier comme auteur de cantiques. Il a été le grand chantre du réveil. Il a écrit, semble-t-il, plus de 6500 cantiques, et dont la qualité à la fois musicale et poétique a été reconnue. Oui. Donc, les deux ont œuvré ensemble, les deux anglicans, les deux voulant rester anglicans, et Charles probablement avec plus de rigueur encore que John. C'est par paradoxe qu'il est le fondateur, ce John, d'une branche qui s'est séparée de l'anglicanisme, les églises méthodistes ne sont pas anglicanes, alors que lui était anglican et voulait rester anglican. Alors, situation familiale d'abord, John était le 15e enfant dans la famille de ses parents, Charles était le 18e, je vous donne une petite idée. Son père était pasteur, ou prêtre si vous préférez, parce que chez les anglicans, on peut dire les deux. C'était une dynastie de pasteurs puritains, mais le père de John et Charles était revenu dans l'église anglicane. Donc c'était une paroisse anglicane. Et une paroisse anglicane où il exerçait un long ministère. C'était un homme rigoureux et ça ne plaisait pas à tout le monde. Figurez-vous que ces paroissiens ont trois fois mis le feu au presbytère, mécontents de la rigueur de leur pasteur. Vous voyez que c'est meurtre. Alors évidemment, il faut se rendre compte que c'est une époque où le pouvoir social et politique et le pouvoir religieux vont ensemble. Donc c'est une révolte contre un pouvoir social qui considère comme oppresseur qui pouvait animer les gens. Et lors de ces incendies, les incendies en 1709, donc c'est de justesse que les enfants ont été sauvés. Et John avait repris pour lui-même, il a souvent utilisé cette expression, l'expression qu'on trouve en Zacharie 3 pour le grand prêtre Josué, n'est-ce pas qu'un tison arraché au feu ? Il s'est considéré comme un tison arraché au feu puisqu'il a été sauvé de justesse dans son enfance. Alors la personne qui a le plus compté pour lui dans son enfance et tout le long de sa vie, c'est sa mère, Susanna. Cette mère a été capable, malgré le nombre de ses enfants, de marquer de manière vraiment très très précise, détaillée, la personnalité, la piété de ses enfants. Elle était d'une piété très très ardente. Et beaucoup des choix que John a fait par la suite ont été ceux de sa mère, à l'évidence. Elle peut être considérée comme la mère du méthodisme. Elle a partu après la mort du père. Elle a vécu dans la maison de John jusqu'à sa mort. Il a été le fils de sa mère, indubitablement. Et c'est ce qui probablement a tellement compliqué sa relation aux femmes. Vous avez dans Théologie évangélique numéro 2 du volume 2 un article sur la vie sentimentale de John Wesley par le pasteur belge Philippe Laurent, qui est très intéressant, mais qui montre à quel point ça a été un désastre, hein, la vie sentimentale. Il a été épris de plusieurs jeunes filles dans sa jeunesse, mais chaque fois ça n'a pas marché. Finalement, il s'est quand même marié après 50 ans avec une veuve qui avait soigné son entorse. Et en 15 jours, il s'est décidé, il l'a épousée, et puis ça a été un désastre absolu. C'était une mégère épouvantable qui l'humiliait en public. Mais c'est vrai qu'il était toujours sur les routes, hein, en même temps, elle avait de quoi se plaindre. Vous voyez, ça a été désastreux. Il y a une femme seulement qui a vraiment compté dans sa vie, mais qui n'a pas pu épouser parce que c'était sa mère. Il a été vraiment le fils de sa mère, Suzanne. Alors, il devient étudiant à Oxford, et brillant, car dès 1700, je suis en train de chercher, 1727, on lui confie un enseignement du grec, à Oxford. Il est, si vous voulez, maître de conférence, professeur assistant, en grec. À ce moment-là, deux choses principalement à dire. Il est plutôt haute église, rituel, liturgie, etc., comme anglican, et il est ordonné, on peut employer ce mot qui pour nous a une saveur catholique, parce qu'il est ordonné prêtre en 1728, anglican, et d'autre part, alors, l'influence qui s'exerce le plus fort sur lui, c'est celui des mystiques. Et c'est celle des mystiques, l'influence. Il lit plusieurs mystiques. En partie, c'est l'influence d'une jeune fille dont il était pris à ce moment-là qui le pousse vers ses lectures mystiques. Il tâte un peu de la collaboration avec son père, du travail en paroisse, il va revenir au début des années 30 de ce travail paroissial à l'université d'Oxford, où là il retrouve son frère Charles, qui est entré aussi et qui a constitué un petit groupe que les camarades ont appelé un peu par dérision les méthodistes, parce qu'ils mettaient l'accent sur vraiment une organisation très rigoureuse du temps, la piété, la prière, toujours bien fixée, et on appelait aussi leur petit groupe le Holy Club, le club de sainteté, vous voyez. Donc, ils retrouvent là ce Charles, et tous les deux vont donc la travailler ensemble, avec toujours beaucoup d'intérêt pour la mystique. Il prêche, hein, on a un souci spirituel qui les marque. Et en 1735, ils vont tous les deux partir pour l'Amérique avec l'idée d'évangéliser les Indiens. Il y a une société missionnaire anglicane qui les emmène, ils accompagnent un nouveau gouverneur de Virginie. Non, excusez-moi, Géorgie, c'est un de ces états. Ça va être assez désastreux, mais ce sera quand même une expérience qui va marquer John et Charles aussi, certainement. En fait, il ne peut pas évangéliser les Indiens, et c'est d'une paroisse anglicane à Savannah, la capitale, qu'il doit s'occuper pendant ces années-là. Mais ça se passe plutôt mal. Il a ses idées, il est rigoureux, très liturgique. Et puis il y a aussi un problème, de nouveau, d'idylle amoureuse. Il tombe amoureux d'une jeune fille, et ça va même relativement loin, mais finalement il ne veut jamais se décider. Son lien à sa mère, je crois, exclut. Du coup, elle se marie avec un autre, et il refuse, quand elle revient, de lui donner accès à la scène. Alors la famille de cette jeune fille, désormais mariée, est évidemment furieuse, et il est obligé de rentrer en Angleterre, autrement il y aurait des poursuites qui se dérouleraient contre lui. Vous voyez l'animation de cette biographie. En même temps, ce voyage est très important, parce que il a fait la traversée à l'aller avec un groupe de Moraves, de frères Moraves. Ce sont les héritiers du mouvement de Jean Hus, mais qui a accepté la réforme et qui est très lié au piétisme allemand. Et il se rend compte, au moment des tempêtes en particulier, qu'ils ont une paix, une connaissance de Dieu qu'il n'a pas. Il se rend compte. Et en Géorgie, le chef de ce groupe Morave, qui est un homme très, très, très important, très bien, il s'appelle Spangenberg, discute avec lui, lui demande s'il a vraiment la foi, qui donne l'assurance du salut, et il se rend compte que non. Alors, il rentre donc en Angleterre, et là, il fréquente les Moraves. Et se passe le 24 mai 1738, à 20h45, c'est lui qui le dit, l'événement clé pour sa biographie. Il se trouve dans une petite réunion morave, dans la rue Aldersgate, à Londres, et on lit la préface de Luther à son commentaire de l'Épître aux Romains. Il parle de la justification par la foi. Et alors voilà voici ce qu'a écrit John Wesley. J'ai senti une étrange chaleur envahir mon cœur. J'ai senti que je me confiais en Christ, et en Christ seul, pour mon salut. J'ai reçu l'assurance qu'il avait enlevé mes péchés, oui les miens, et m'avait sauvé moi de la loi du péché et de la mort. C'est une expérience, alors on ne peut pas dire qu'il était tout à fait un converti avant, mais vous voyez, c'est une expérience décisive qui va le marquer. Whitfield, dont nous allons parler dans un instant, avait fait une expérience plus tôt, une expérience de conversion à la manière puritaine, plus classique, quelques années plus tôt. Et avec Whitfield, après cette expérience, Wesley commence à prêcher. Mais le message qu'ils apportent est un message qui tranche trop sur ce que les anglicans ont l'habitude d'entendre, ils sont anglicans, et peu à peu on leur ferme les églises. Et alors, Whitfield prend une initiative, Wesley d'abord hésitant, mais il va le suivre, il se met à prêcher en plein air, à des foules de gens de la partie la plus misérable de la population, en grande partie. Hein. Il commence près de Bristol, et alors, c'est le réveil qui commence. Le mouvement est extraordinaire, les gens sont saisis, ces foules se pressent pour entendre le message qu'apporte Whitfield et John Wesley. Et John Wesley entame ainsi un ministère itinérant. Il va prêcher de lieu en lieu, généralement à l'extérieur, parce qu'on lui interdit les églises elles-mêmes. Pendant plusieurs dizaines d'années, on a calculé qu'il a fait à peu près 360 000 kilomètres, principalement à cheval, mais autrement à pied. Il n'avait pas peur de faire 4 heures à pied pour aller prêcher dans un endroit. Il a laissé le journal, j'ai un énorme volume de son journal, je ne l'ai pas apporté là, mais... pour des foules énormes, plusieurs milliers, avec la capacité de se faire entendre, ça nous surprend toujours, mais aussi des petits groupes, hein, et malgré l'opposition, parce qu'il y a l'opposition des curés des paroisses anglicanes, mais il y a aussi l'opposition de certains gros bras dans la population qui ne veulent pas entendre de ce message. Mais il va y avoir des centaines de milliers de personnes gagnées. Et alors le génie de Wesley, c'est qu'il a organisé les choses très très habilement, sans sortir de l'église anglicane, mais organisant ses convertis en groupe, en classe, comme il les appelait, avec des responsables laïcs, avec des tickets pour accéder aux réunions, un contrôle en quelque sorte de leur fidélité à leurs engagements. Et les responsables donnaient un ticket chaque mois ou chaque 3 mois. C'était vraiment très très surveillé, un encadrement qui correspondait aux besoins du temps. Et le mouvement donc s'est étendu, et à la fin de sa vie, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est quelque chose d'énorme qu'il avait constitué. Alors c'est après sa mort qu'il y a eu rupture avec l'église anglicane, d'une bonne partie de ces églises qu'on a appelées méthodistes, wesleyennes. Alors, que dire du message particulier? Le message se caractérise comme nouveauté par l'accent sur l'engagement personnel, l'expérience. Hein, j'ai senti une étrange chaleur envahir mon cœur. Hein. Ça, c'est typiquement une accentuation nouvelle par rapport à l'orthodoxie, par rapport à la réforme aussi. Alors, il respecte l'autorité biblique. L'autorité biblique demeure absolument intacte. Il se rend bien compte que s'il se laissait aller aux divagations du sentiment, tout irait à volo. Donc, l'autorité biblique est parfaitement respectée. Aussi, le message de la justification par la foi. Mais, autrement, ce n'est plus le même message que les puritains. Sur 3 points principalement. D'abord, avec sa mère, c'est sa mère qui a commencé, il rejette le calvinisme. Il ne peut pas l'encaisser, l'idée que Dieu est élu, dès avant la fondation du monde, ceux qui seront sauvés. Il adopte ce qu'on appelle la doctrine arminienne, du nom du théologien hollandais qui s'était opposé au calvinisme au début du XVIIe siècle, Arminius, doctrine arminienne. Et donc Wesley est arminien, le fait savoir, le prêche, et il s'oppose au calvinisme des puritains. Il associe à cela une dose assez importante de sacramentalisme. Le baptême et l'Eucharistie, en anglican qu'il est. Alors ça ne va pas rester dans le méthodisme. C'est en tension avec l'accent sur l'engagement personnel et l'expérience que donne le Saint-Esprit dans sa liberté. Mais chez Wesley lui-même, on ne peut pas l'ignorer. Et puis, troisième point, il ajoute le perfectionnisme. Là, sur l'influence des mystiques, je pense en particulier, certains mystiques français, hein, et Madame Guyon, ils considèrent qu'on peut atteindre un stade dans cette vie de perfection sans péché. Avec une deuxième expérience, une expérience où on se livre entièrement au Seigneur. On est justifié par la foi, la conversion, mais il y a un cheminement à faire, et on peut avoir une deuxième expérience de sanctification qui débouche sur une perfection sans péché. Alors, il a été obligé très très vite, il y a eu de grandes controverses, de rabaisser la barre, hein, en disant, oui, je dis perfection sans péché, mais ça veut dire sans péché conscient, sans péché délibéré, et puis il y a des faiblesses que j'appelle pas vraiment péché, etc. Vous voyez, il a été obligé là d'en rabattre énormément, et d'après Warfield, il a même fait paraître vers la fin de sa vie un entrefilet dans les journaux, parce que ça se passait beaucoup avec les journaux comptaient beaucoup à ce moment-là. Je ne prétends pas avoir atteint la sainteté que je prêche. Il a été tellement l'objet de controverses et peut-être de caricatures et de dérisions à ce propos qu'il a dit ça. Mais ça reste un enseignement original du wesleyanisme qui a introduit donc au cours du 19e siècle tout ce schéma d'une deuxième expérience, une deuxième bénédiction. Et c'est un collègue dans le méthodisme et anglican de Wesley qui a utilisé pour cela, quelquefois au moins, le mot de baptême du Saint-Esprit. Alors ça ne s'est pas généralisé par la suite avant le mouvement pentecôtiste, avant la fin du 19e siècle. Mais si le pentecôtisme a appelé baptême du Saint-Esprit une deuxième expérience, ça remonte quand même à cette origine-là. Et celui qui a forgé cette expression, c'était un francophone à l'origine. C'est Jean-Guillaume de la Fléchère, qui était né à Nyon, c'est un Suisse romand, et qui est passé en Angleterre, qui est devenu méthodiste, qui a anglicisé son nom pour s'appeler Fletcher, qui était pasteur anglican, méthodiste, mais anglican. Alors, il n'a pas eu le ministère itinérant, c'est pour ça qu'il était moins célèbre, mais paraît-il, c'était un très bon orateur. Et il a aussi influencé à sa manière. Autrement, encore un point sur Wesley. Encore un point sur Wesley. Son souci des pauvres, son intérêt pour des tas et des tas de questions, et il a vraiment lancé un travail social très important. Et en s'intéressant aux détails, il a publié par exemple un livre, il a publié une multitude de livres, hein, mais un livre sur les remèdes qu'on peut se fabriquer soi-même à la maison pour les maladies. Un livre de médecine pratique. Et il croyait beaucoup, on avait juste découvert l'électricité, à la vertu de l'électricité pour guérir toutes les maladies. Il avait toujours avec lui un petit appareil qui fabriquait de l'électricité. Et il prétend dans son livre que l'électricité guérit tout. Ça, c'est aussi un élément dans le portrait de John Wesley. Deuxième, alors, je lâche très vite, George Whitefield. Whitefield, 1714-1770. Lui, il a beaucoup longuement vécu. Il était d'une extraction sociale inférieure, fils d'aubergiste, et orphelin de père à 2 ans en plus, c'était très très dur. C'est quelqu'un qui a remarqué ses dons, qui l'a fait entrer à Oxford, avec un statut quand même, il est en même temps étudiant et le serviteur domestique de ses camarades étudiants. Il est entré donc jeune, à 1731 je crois, à Oxford. Il s'est joint au club de sainteté, aux méthodistes, et il a fait dès 1735 une expérience de conversion plutôt de type puritain. Il lisait quand même lui, plutôt les puritains que les mystiques. Il a été la même année ordonné prêtre, très très tôt, hein, anglican, lui aussi, hein, anglican, et il est parti avec les deux frères Wesley en Géorgie. Il a fait partie de ce voyage. Mais pour lui, ça s'est beaucoup mieux passé que pour eux. Le contact avec l'Amérique a été très positif. Et donc il est revenu à peu près à la même époque que Wesley. Il a commencé à prêcher est prêché en plein air, c'est lui qui a lancé. Il a eu un succès considérable. Déjà à ce moment-là, à la fin de la décennie 30, en Angleterre, mais il est, en 1740, revenu aux États-Unis, je dis aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, à ce qu'allaient devenir les États-Unis, et là, il est devenu le prédicateur d'un réveil extraordinaire par le nombre des personnes touchées. Là, c'est lui qui a été le prédicateur le plus populaire, réunissant des milliers d'auditeurs pendant plusieurs années, et il a fait 7 fois. Pensez qu'à ce moment-là, ce n'était pas le Concorde, ni la 380. Il a fait 7 fois le voyage d'Angleterre jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Et là-bas, à chaque fois, il avait une tournée de prédication de réveil qui vraiment secouait toute la population. C'est Whitfield. Et en même temps, il a fondé là-bas un orphelinat, une œuvre caritative très importante, qu'il a laissé aussi à sa mort. Et c'est en Angleterre qu'il est mort, d'une crise d'asthme encore relativement jeune, d'ailleurs. Alors, Whitfield, deux grandes différences avec Wesley. Première grande différence, lui était calviniste. Il avait lu les puritains, il était dans la ligne des puritains. Une théologie beaucoup moins originale, la théologie semblable à celle de Bunyan, mais pas baptiste, hein, anglicane. Et il s'est, en 1740, séparé de Wesley pour cette raison. Ils ont eu une controverse publique. Ils se sont réconciliés ensuite, ont trouvé un modus vivendi pour, malgré leurs différences, mais Whitfield, donc, a laissé un méthodisme calviniste après lui, à peu près 4 fois moins nombreux que le méthodisme wesleyen, mais quand même. Alors, il n'était pas un organisateur. Et ça, c'est la deuxième différence. Son don à lui, c'était le don de l'orateur. On considère qu'il a été le plus grand orateur de son temps. Il avait une gestuelle, une voix magnifique aussi, une gestuelle dramatique. Les gens considéraient vraiment que c'était le plus grand orateur. Il savait émouvoir à l'extrême. Il disait qu'il pouvait faire pleurer rien qu'en prononçant le mot de Mésopotamie. telle puissance. Et alors que Wesley, il paraît que le seul mouvement qu'il faisait quand il prêchait, c'était le mouvement de la main pour tourner les feuilles. voyez le contraste. Et en plus donc de cette capacité oratoire, l'usage des derniers moyens, en particulier de la pub, il a été capable de faire précéder ces grandes réunions de pub dans les journaux, etc. On parlait de lui à l'avance. Et il a utilisé tous ses moyens. Et puis, dernier élément à dire sur lui, il a, malgré son origine, de fils d'aubergiste, beaucoup impressionné plusieurs des grands de la noblesse anglaise. Plusieurs duchesses sont venues, et en particulier une comtesse, Lady Huntingdon, la comtesse Selina Huntingdon, qui l'a pris pour chapelain, ça lui assurait aussi une possibilité quand même de prédication dans des lieux couverts, et qui a réuni un cercle de gens réveillés par la prédication de Whitfield, essentiellement, qui a joué un rôle très important dans la politique anglaise. C'est ce cercle-là qui a, au bout du compte, réussi à abolir l'esclavage. Je ne dis pas que ce soit le seul facteur, mais l'abolition de l'esclavage, qui était d'abord faite par les Anglais avant les Français, cette abolition de l'esclavage a été due à cette influence évangélique issue du réveil et du réveil de Whitfield. Jonathan Edwards, oui, est né la même année que Wesley, 1703, et il est mort prématurément, je vais vous dire comment, en 1758. En Europe, il est peut-être relativement peu connu. Mais sachez qu'aux États-Unis, il est considéré vraiment comme un très très grand homme. Beaucoup d'auteurs et d'auteurs non chrétiens le tiennent pour le plus grand philosophe des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. Il était à la fois philosophe, théologien, avec plusieurs ouvrages importants, et prédicateur de réveil. Un assemblage qui peut vraiment étonner. Alors, il était issu de ces grandes familles qui gouvernaient la Nouvelle-Angleterre, grandes familles de pasteurs calvinistes, puritains. Il en était, lui, à l'origine, et il a, après des études extrêmement brillantes, alors c'était un jeune prodige, c'est à 12 ans, il avait le niveau d'entrée à l'université, il a achevé ses études universitaires à 17 ans, avec le diplôme qu'aujourd'hui, dans le système américain, on a à 22 ans, vous voyez l'avance, très brillant dans plusieurs domaines, y compris scientifiques, il est devenu le pasteur d'une église de son grand-père maternel, qui était une grande figure d'autorité dans cette Nouvelle-Angleterre. Vous voyez un peu le tableau, hein. C'est un prédicateur très, très rigoureux, très souvent, il lisait ses sermons, mais avec des effets extraordinaires. Et en 1734, après quelques années de ministère dans cette église, c'était assez dur, parce qu'il y avait des bandes de jeunes qui étaient assez rétifs, qui voulaient s'amuser, à force de prêcher avec la rigueur qui était la sienne, il a réussi à retourner l'attitude de ces jeunes, et un réveil a éclaté. Ça, c'est le premier réveil dans la série que nous considérons. Ça avait été précédé quand même par certaines choses chez les piétistes. Il y avait des piétistes en Nouvelle-Angleterre dès les années 20, mais du 18e siècle. Mais réveil extraordinaire avec la société qui en est secouée dans la bourgade dont Jonathan Edwards est le pasteur en 1734. Et les phénomènes que j'ai évoqués se produisent. Et puis en 1736, tout à coup, tout s'arrête. C'est aussi assez caractéristique de ces réveils. Hein. Parfois, c'est du jour au lendemain que ça éclate et que ça s'arrête. Et ça s'arrête là parce que un homme qui était entré dans le réveil, hein, un réveillé, s'est suicidé. C'était une personnalité assez connue. Et du coup, ça arrête un réveil net. Alors, il a continué à être le pasteur de cette église. Et en 1740, Whitfield est arrivé avec le réveil de Whitfield et de quelques collaborateurs. Et alors, Jonathan Edwards a pris sa part dans ce réveil, en circulant beaucoup dans les autres villes, à part son église à lui. Et donc, il est devenu l'un des prédicateurs de réveil, mais pas celui qui attirait le plus des foules. Hein. Le plus de foules, c'était plutôt Whitfield, en Nouvelle-Angleterre, à ce moment-là. Mais il a quand même été identifié à ce réveil, et en particulier parce qu'il en a été le théoricien. Par différence d'autres grands revivalistes, il a développé une théologie du réveil. Plusieurs ouvrages. Alors, il était un calviniste rigoureux lui-même, avec certains traits philosophiquement originaux, mais calviniste rigoureux, donc là, du côté de Whitfield, hein, en Nouvelle-Angleterre, tout est resté très, très calviniste, mais il mettait l'accent, ce qui correspondait à son tempérament et à sa conversion aussi, j'ai pas le temps de vous lire les lignes qu'il a écrites, mais en mettant l'accent sur les affections. Il était extrêmement logique dans sa prédication, dans sa manière, mais il loge quand même l'essentiel du côté affectif. Et il a rédigé un traité sur les affections religieuses. Alors, le mot affection, bien sûr, il faut savoir ce qu'il veut dire exactement. Il concerne la volonté chez lui, mais aussi les expériences. Il a connu plusieurs extases, et sa femme aussi, il a eu un nombre d'enfants, qui était très pieuse, a connu des séries pendant deux ou trois semaines d'extase extraordinaire, de délices dans la présence du Seigneur, mais complètement décroché de la vie ordinaire. Ça a été aussi assez caractéristique de Jonathan Edwards. Et alors, à propos de ce réveil, il a dû combattre sur deux fronts. Ça a été assez caractéristique. D'une part, il a essayé de contrôler les manifestations extraordinaires et souvent de mauvaise qualité, correspondant à une excitation charnelle, qui accompagnait les réveils. C'était un homme d'ordre, il appartenait à cette grande structure puritaine, et donc il a essayé de ramener à plus de raison, plus de sobriété, ce qui se passait, et en particulier de freiner la critique des pasteurs en place, qui était aussi un trait caractéristique de ces réveillés. Mais d'autre part, il défendait le réveil contre les critiques conservateurs. Donc il s'est battu très énergiquement pour ces deux fronts, et ses écrits sur les affections et le réveil ont été repris par les charismatiques de notre époque. J'ai bien vu qu'il était très populaire parmi eux par les écrits de défense, en particulier des phénomènes extraordinaires, qu'il a développés avec sa logique. Et alors il y a un trait, je vais achever là-dessus, un trait qui est très caractéristique aussi de Jonathan Edwards. Il a lutté pour défendre donc ses réveils de manière constante, parfois même un peu agressive, dure à l'égard de ceux qui émettaient quelques critiques. Et pourquoi? Parce qu'il était persuadé que c'était un signe des temps. Il interprétait les prophéties de l'Écriture et de l'Apocalypse, de telle sorte qu'il croyait même pouvoir trouver dans des textes, montant que ça commençait en Amérique, que le grand réveil qui allait produire le millénium, un millénium avant le retour du Seigneur, mille ans avant qu'il soit le Seigneur, sans la présence physique du Seigneur, mais il était post-millénariste, il croyait à ce millénium où l'évangile serait reçu partout, où il serait le pouvoir social, justement, ouais, l'idéal de théocratie puritaine. Il croyait que le réveil qui avait commencé, et selon des prophéties, c'était le début de cette entrée du règne. Et cette entrée du règne, il interprétait selon les prophéties que cela devait se passer dans le conflit avec l'Antichrist. Et quel était l'Antichrist? À l'évidence, l'Antichrist, c'est le pape. Pour tous les puritains, c'est absolument sûr que l'Antichrist, c'est le pape. Et quel était l'instrument du pape en Amérique du Nord à ce moment-là? Mais c'était les Français. C'était le pouvoir français. Donc ces guerres entre la France et les colonies anglaises là-bas, c'était pour lui le combat de l'Antichrist contre ce qui était le début du règne du millénium marqué par le réveil. Et ceux donc qui se disposaient contre le réveil, qui étaient un peu réticents, ils faisaient le jeu de l'Antichrist. Vous voyez comment se combinait son post-millénarisme, son interprétation des prophéties, ça allait jusqu'à ce détail. Hein. Dans Apocalypse 16, verset 12, il est question de, je crois que c'est la sixième coupe, qui est versée sur l'Euphrate, qui achète la sixième coupe, est versée sur l'Euphrate, et l'Euphrate est asséché. Eh bien ça voulait dire pour lui l'assèchement des ressources financières du Vatican. Et il cherchait dans tous les journaux, etc., toutes les données pour montrer que c'était l'accomplissement de cette parole de l'Apocalypse. Ce détail pour vous dire dans quel état d'esprit il pouvait vivre le réveil. Et aussi, donc, combattre pour qu'il soit reconnu. Alors, à la fin de sa vie, il a été élu président d'un collège dans le New Jersey, donc en Nouvelle-Angleterre, qui allait devenir célèbre, qui allait devenir la grande faculté de Princeton, qui est fameuse encore aujourd'hui. Il a été élu président, et puis comme il était très favorable à la modernité scientifique, donnons l'exemple, il s'est fait vacciner contre la variole. C'était les débuts de la vaccination. Puis ça s'est mal passé, il en est mort. Il est tombé malade, et cette vaccination a mis fin donc à cette vie si, si étrange et extraordinaire de Jonathan Edwards. Voilà, alors ma conclusion sera que le Seigneur donc utilise des serviteurs comme ses collaborateurs, selon leurs dons et même avec leurs faiblesses. Tous, ils ont eu une certaine faiblesse. Et ce qui a limité les dégâts de tout ce qui n'était pas peut-être impeccable chez eux, c'est leur respect de l'Écriture, leur désir sincère de vivre pour le Seigneur et selon l'autorité de la Bible, entièrement respectée.